franceinter.fr.
Bonjour. Mulhouse, la ville où Sarkozy est venu hier racler les voix du Front National en s'imaginant que l'Alsace est raciste. L'Alsace n'est pas raciste et en plus elle est antinucléaire. Pour rappeler l'horreur de Tchernobyl et dire plus jamais ça, Fermont, Fessenheim et sa tuyauterie pourrie, ses risques d'inondation, ses risques sismiques, son radier trop mince, sa menace sur la nappe phréatique et j'en passe. Fermont, Fessenheim. Rassemblement ce jeudi 26 à 17h à Mulhouse, place de la Réunion. Et dimanche à 14h, pique-nique à Fessenheim avec nos voisins suisses et allemands.
Bonjour à tous à La Rochelle. Nous continuons à vouloir du débat citoyen au Café Repère, vendredi 27 avril à 19h, à la Petite Marche, 4 rue des Trois Fuseaux. Nous parlerons de la nouvelle Constitution. La Constitution, c'est quoi ? Faut-il la changer ? Qui doit la rédiger ? Que doit-elle contenir ? Nous espérons que vous viendrez très nombreux. À bientôt.
Message pour Gabriel. Qui aimes-tu le mieux en énigmatique ? Dis ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis ? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie ? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté ? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Voilà, c'est un message pour Gabriel, qui a appelé hier et qui vote Front National.
Oui, j'ai bien apprécié ton émission sur les communiqueurs, mais j'ai l'impression que tu as été victime. Je demande un communiqueur là, la personne d'une dame qui s'est exprimée en disant qu'elle votait socialiste, mais que depuis qu'il y a des étrangers enfin dans son quartier, tout ça, et qu'on veut donner le droit de vote aux étrangers, elle a voté Le Pen et puis après elle avait voté Sarkozy. Donc cette personne là s'est déjà exprimée sur France Inter dans la matinale, ce qui veut dire que j'ai l'impression que c'est un sous-marin des communiqueurs.
Salut à tous. Demain soir à 19h au Latitude, derrière Intermarché, à Tourette, il y aura le repère de Tourette qui se réunit, comme tous les derniers vendredis de chaque mois. On y parlera de la montée du Front National. C'est vrai que nous, dans notre région, avec Sarkozy à 30% et Le Pen entre 25 et 30, on est un petit peu étriqués. Ça serait bien qu'on soit plus nombreux au repère pour pouvoir en parler. Et puis on parlera aussi du nouveau journal qui vient de sortir son dernier numéro et qui organise une petite Java dimanche. Et puis on parlera de tout un tas de thèmes, notamment la montée sur le plateau des Glières, c'est dans un mois, donc il y a des bus, il y a des hébergements qui sont prévus. S'il y a des gens qui s'intéressent de monter sur le plateau des Glières le dernier week-end de mai, on en parlera aussi. Allez, ciao viva, portez-vous bien. Et c'est pas les résultats qui est beau, c'est la lutte.
Bonjour l'équipe du répondeur, bonjour Daniel, bonjour les AMG. J'appelle pour essayer de donner un petit peu de hauteur au débat sur le travail qui a été mis sur le tapis par le président candidat avec une volonté vraiment de montrer du doigt les chômeurs qui sont payés à rien faire. C'est pas si simple que ça. Et il y a un livre très éclairant de André Gorz qui s'appelle « Misère du présent » au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, donc « Misère du présent et richesse des possibles ». Donc je vais vous lire juste un petit extrait et puis je vous invite vraiment à le lire. Il fait une différence entre travail et emploi déjà. Il explique que la société capitaliste, sa velléité, c'est de supprimer les emplois. Enfin, je vous lis le petit extrait et puis à suivre. Hein. Voilà. Les travailleurs embauchés par les grandes entreprises sont une petite élite. Et cela non pas parce qu'ils ont des aptitudes supérieures, mais parce qu'ils ont été sélectionnés dans une masse d'individus aussi aptes qu'eux, de façon à perpétuer l'éthique du travail dans un contexte économique où le travail perd objectivement sa centralité. L'économie en a un besoin de plus en plus réduit. L'acharnement au travail, le dévouement et l'identification au travail risqueraient de diminuer si tous pouvaient travailler de moins en moins. Il est plus avantageux économiquement de concentrer le peu de travail nécessaire sur peu de gens qu'on imprégnera du sentiment d'être une élite privilégiée, méritant ses privilèges par un zèle qui la distingue des perdants. Rien techniquement n'empêcherait la firme de répartir le travail sur un nombre beaucoup plus grand de gens qui ne travailleraient que 20 heures par semaine. Mais ces gens n'auraient pas alors, envers le travail, l'attitude correcte qui consiste à se considérer comme des petits entrepreneurs valorisant leur capital savoir.
Voilà, lire André Gorce, merci pour ces messages, chers AMG. Effectivement, le dernier week-end de mai, on sera au Glières, le repère des repères de là-bas, si j'y suis. Et on aura le samedi soir un invité remarquable qu'on avait rencontré, si vous vous souvenez, à Budapest, Gaspard Miklós Tamás, qui viendra de Budapest pour parler de l'extrême droite en Europe. Lui qui est hongrois et qui en sait quelque chose, mais qui parlera de ce qui se passe généralement en Europe et chez nous, et qui parlera par ailleurs, c'est un de ses champs de recherche, qui parlera du travail. Il avait parlé de ça d'une façon très originale lorsque nous l'avions rencontré à Budapest, dans les idées d'André Gorce, dans la continuation des idées d'André Gorce. Donc c'est le dernier week-end de mai. Oublier, on aura l'occasion d'en parler. Alors vous avez suivi hier, beaucoup d'entre vous, avec intérêt, notre premier volet des reportages de Pascal Pascariello et Gaylor Van Wimersch sur la communication, sur ceux qui sont dans l'ombre, sont derrière, tirent les ficelles et sont toujours prêts à trouver la bonne formule, le bon mot, et qui ont une influence considérable sur le pouvoir. Et c'est cette com vue comme un monstre doux que nous allons retrouver aujourd'hui, avec en tête cette phrase prononcée hier par l'un d'eux: jamais prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Un message de douceur dans ce monde de brute politique qui s'adresse donc en particulier aux Nantais et à ceux de la région nantaise et à ceux qui ont pu écouter l'émission sur Pascal Audin de Là-bas si j'y suis, et qui ont été touchés par cette émission et qu'ils ne connaissent pas son travail. Voilà, donc nous organisons une exposition à la Galerie de Rosay, la Little Big Galerie de Rosay, le 28 avril, vernissage, à partir de 18h. Et cette expo est du 28 avril au 10 juin. Donc je répète les coordonnées: à la Little Big Galerie, exposition de Pascal Audin, du 28 avril au 10 juin, vernissage, samedi 28 avril, à partir de 18h. Venez nombreux, à bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Comme tout le monde, j'ai entendu dans tous les médias, radio, télé, la stigmatisation des étrangers qui sont en France. Alors je me pose la question: comment devrions-nous nous comporter vis-à-vis des Français qui sont dans notre pays d'origine, en l'occurrence Madagascar? Combien de Français se sont montrés, comme dans un pays conquis chez nous, des arrogances, les agissements envers leur personnel, les insultes que ces personnels reçoivent? Qu'est-ce que nous devons faire avec ces Français? J'ai habité à La Réunion pendant 35 ans, après j'ai fait Mayotte, maintenant en France, partout les Français ont un comportement vraiment inadmissible. Alors si vous stigmatisez toujours les étrangers, d'abord, pallier devant votre porte.
Il y a des techniques de communication de plus en plus sophistiquées. Et c'est vrai que ça a été beaucoup le cas depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Des techniques, par exemple, de saturation de l'espace médiatique, de ne pas laisser de place à l'opposition, de ne pas les laisser s'exprimer, de faire en sorte d'occuper tout l'espace possible pour asséner un message.
Et au fond, nous, notre métier, c'est d'être une passerelle, d'être un pont qui se jette entre nos clients et l'ensemble des gens avec lesquels ils veulent communiquer.
Jean-Pierre Raffarin, comment on peut vous présenter aujourd'hui ?
Comme le vice-président du Sénat, vice-président de l'UMP, quelqu'un pour qui la communication est une valeur. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux mots, que les mots ne soient pas des barrières qui éloignent, mais plutôt des passerelles qui rapprochent. Peut-être aussi de l'émotion, de la poésie, ou une sorte de voyage dans la parole. Alors que les messages sont de plus en plus complexes, l'expression doit être de plus en plus simple.
« Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Pascal E, Pascariello et Gaylor Van Wimersch. Dans communiquer, il y a comme et il y a...
J'arrive aux limites de Caen. On est vendredi 6 avril et si je sors le papier que j'ai reçu ce matin, communiqué de presse, réunion publique avec Nicolas Sarkozy à Caen, vendredi 6 avril 2012 à 17h. Intervention de Nicolas Sarkozy à 18h. Et sur le parking, en arrivant au Zénith, il y a à peu près 16 cars qu'ont dû amener les militants de l'UMP qui sont tous réunis pour l'occasion, qui attendent là devant les grilles du Zénith. Moyenne d'âge, en tout cas là pour l'instant, c'est pas mal de personnes âgées. Bonjour, vous êtes de Caen?
Non.
Non,
non. Des Andes. Dans l'air.
Ginette.
Et
Nelly.
Le meeting, est-ce que c'est l'occasion de faire partager ses idées ou pas vraiment? C'est plus...
Un grand moment de joie, surtout quand on l'a vu à Villepinte, la quantité de monde qu'il y avait.
On partage les émotions et les idées du candidat et ça fait toujours plaisir de le voir en vrai.
Qu'est-ce que vous retenez alors comme idées qui sont importantes dans ce programme?
Pour moi, la meilleure idée, c'est que les jeunes s'élèvent tous les jours pour aller travailler, gagner leur vie, ne pas être assistés. C'est vrai, il y a du chômage. Mais beaucoup des jeunes se complaisent à dormir jusqu'à 10h du matin pour aller chercher du travail. Et ça, c'est ce que moi, j'imagine le plus. Ces personnes-là, ils ne méritent pas de recevoir quelque chose de la part des autres.
Il y a des cas où les gens vont réclamer à droite à gauche de la nourriture, ils vont au Secours catholique, ils vont machin, ils ramassent plein de choses.
Vous avez quel âge, vous?
Moi, j'ai 80 ans bientôt.
Et vous faisiez quoi?
Moi, j'étais travailleuse familiale, je faisais du social.
Alors, est-ce qu'il y a une autre idée aussi qui vous convient beaucoup dans le programme de Nicolas Sarkozy?
Je pense qu'il faudrait serrer la ceinture à l'immigration, mais pas seulement la France, toute l'Europe.
Et est-ce que vous avez une idée de qui prépare tout ce meeting? Quels sont les hommes qui font la communication de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous les connaissez, vous?
Jean-François Copé, il s'occupe beaucoup de ces choses-là.
Jean-François Copé? On va faire un petit quiz. Est-ce que Guillaume Lambert, ça vous dit quelque chose?
Non, il ne me dit rien.
Alors, ensuite, est-ce que Franck L'Ouvrier, ça vous dit quelque chose?
Oui, je l'ai entendu parler à la télévision, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'occupe.
Et il s'occupe de tout ce qui est médias, et communication et presse. Choisir les bons médias, choisir les mauvais, enfin...
D'accord.
Jean-Michel Goudard.
Ah oui, Jean-Michel Goudard, c'est un ministre.
Non, c'est un ancien...
Un ancien secrétaire ou un truc comme ça?
Non, il faisait partie, en fait, c'est un des fondateurs de l'UMP, vous me dites? Non.
De qui?
De la société Euro-RSCG, c'est une société de communication, vous ne connaissez pas?
Non, non.
C'est de là d'où vient Séguéla, Euro-RSCG.
Oui.
Non, Séguéla, c'est celui qui disait qu'il faut avoir une Rolex pour avoir réussi sa vie.
Non, non, je ne connaissais pas ce monsieur.
Merci beaucoup. Je vais essayer de savoir par où je dois rentrer, moi, parce que je crois que c'est codifié. Hein.
Oui.
Ça doit être là-bas. Au revoir.
Les petites dames ne connaissent pas ces gens-là, ni ces noms-là. Et vous, bah, vous ne les connaissez pas non plus. Et pourtant, ils sont importants. Ils ont du pouvoir sur le pouvoir. Ce sont les communicants. Ils ont du pouvoir sur le pouvoir. Et les gens de pouvoir, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir médiatique même, ces gens-là les connaissent très bien et ont souvent recours à leur service. On appelle ça la com. La com, c'est pas tout. D'avoir du savoir-faire, il faut le faire savoir. On dit, ah bah oui, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne soit pas informé et que quelqu'un qui a du talent ou quelque chose à dire ne puisse pas. Il faut porter la parole. En effet, il faut trouver la forme pour que la parole, le message, soit porté à la connaissance de tous. La forme, oui. Mais il y a un moment où la forme dépasse le fond. où ceux qui mettent en forme, ceux qui, comme on nous le disait hier, construisent des ponts, pour des passerelles, pour aller entre le producteur de sens, disons, et puis celui que ça peut intéresser, il y a des moments où ils ont une façon d'utiliser la passerelle, de la siphonner, de la dévier, qui pose beaucoup de problèmes. C'est le moment où la com influence bel et bien le fond. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'hier, bien sûr. Souvenez-vous, au moins, pour pas remonter trop loin quand même, de Edouard Bernays. On a consacré du temps à Edouard Bernays avec notre ami Normand Baillargeon. Cet extraordinaire inventeur des relations publiques. C'est lui qui a inventé les relations publiques. Ce monsieur qui était né en 1891 aux États-Unis, qui est mort en 1995, qui a une très très longue vie et qui avait découvert quelque chose, pas seulement découvert, mais appliqué quelque chose, reposait sur l'idée que une foule ne peut pas être considérée comme pensante, seul le « ça » s'y exprime, c'est-à-dire les pulsions inconscientes. Le « ça », oula, vous me dites, mais c'est la psychanalyse, et vous avez raison, c'est ça, c'est Freud, le « ça ». Et Barnes était à part deux voix de la famille, par deux filières de la famille de Freud. Il était le neveu par une ligne, et puis je ne sais plus quel lien il avait. En tous les cas, il connaissait bien l'œuvre de Freud, et il a trouvé comment s'adresser à l'inconscient, à l'émotion. Ça, les communicants le savent aujourd'hui. Et aujourd'hui, la communication, là aujourd'hui on va parler à nouveau de communication politique, a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans la politique. C'est-à-dire l'émotion, c'est-à-dire saturer l'espace médiatique, comme on vient de le dire, lancer des fumigènes, envoyer des contre-feux, bref, une manipulation dans la fabrique de l'opinion et un jeu sur les mots, pour commencer, bien sûr, c'est extrêmement important. Peut-être allons-nous contribuer, c'est notre but, à vous aider et à nous aider aussi nous-mêmes à déjouer ces pièges qui sont des pièges tendus aussi à la démocratie, au débat public. Jaurès, que ces gens ont si souvent traité mal ces dernières années, en le citant à tort et à travers, disait « Quand les hommes ne peuvent plus changer les choses, ils changent les mots. » C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Dans communiquer, il y a comme et il y a...
Lâche-moi toi, hey, t'es qui toi, quitte, mais je rêve quoi, t'es qui toi, quitte, mais je rêve quoi, non tes paroles sinon kinesthétiques et ineptes ne sauvent pas la qualité intrinsèque du texte, obtus de ton rap anémique, absconsant, groove et chaotique quoi, t'es qui toi, quitte, mais je rêve quoi, t'es qui toi, quitte, mais je rêve quoi, MC Dino Monde est beau, du cœur Nénal à l'extasie, Nadia Anne il fait trop chaud et s'écroule sur le tapis, MC tremble en parano devant ce pantin sans vie, sans voir les raléos, tout ça n'est qu'une vue de l'esprit. Non, vraiment, ce que le monde est bon, c'est les progrès de la communication. T'es qui toi, quitte, mais je rêve quoi, t'es qui toi, quitte, mais je rêve quoi, t'es qu'elle tourne au cœur, sans que t'es qu'elle trique, contact.
Là je vais rentrer sous les portiques, au niveau de l'entrée des invités et de l'accueil presse.
Vous pouvez déposer vos ordres.
Bien sûr.
Tout ce qui est objet métallique est dedans. Vous allez voir, déjà je vous indique que vous avez un carré presse à gauche, sinon si vous voulez être un peu plus tranquille, sur la droite derrière un rideau il y a des salles de passe.
Bonjour, vous avez votre
oui.
S'il vous plaît.
Merci. Voilà, on rentre dans la salle et on est dans le carré presse qui est quand même un peu décentré des militants. Quand François Copé vient d'arriver, les militants s'installent dans la salle et les équipes de télévision, mais qui ne sont pas celles de France Télévisions, mais plutôt celles de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy commence à prendre les premières images du meeting. Jean-François Copé continue à serrer des mains auprès des militants. Ça crée une petite foule dans les gradins. Et pour l'instant, les gens s'assoient, c'est un peu comme un spectacle. On va essayer de voir si on peut poser quelques questions à Jean-François Copé.
Voilà un meeting parmi d'autres. Et qu'est-ce qu'elle fait là, notre Pascal Pascariello? Ben, Pascal Pascariello veut faire absolument un sujet sur la communication politique. Et les communicants ne communiquent pas tellement, même franchement, pas du tout. Alors elle s'est dit, ben je vais aller à un meeting politique, celui-là par exemple, et j'aurai peut-être des chances de rencontrer les communicants. Ils doivent être là, ceux qui montent, qui construisent, qui ont l'idée. Par exemple, génial, vous vous souvenez au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, quand on le voyait en Camargue avec ses rébanes sur ce petit cheval blanc en train de cavaler avec cette charrette tirée par un tracteur avec tous ces journalistes qui étaient dessus. Ces images absolument inouïes, oui, jusque-là. Et quelqu'un a eu l'idée de ça, et beaucoup d'autres choses ont été mises en scène de cette façon pour frapper nos imaginations. Alors, comment trouver les auteurs de ces idées-là? Comment ils s'y prennent? Comment ils élaborent tout ça? Très, très difficile. Alors, eh bien, Pascal est là ce jour-là. Pour comprendre un peu mieux tout ça, on est parti du travail de deux confrères, Aurore Gorius et Michael Moreau, les auteurs de Les Gourous de la com, qui ont fait un travail très, très patient et très précis sur 30 ans de manipulation politique et médiatique.
Avant, c'était très décomplexé, la com de l'UMP. Parce que nous, quand on a fait l'enquête, par exemple, à l'UMP, on n'a pas voulu nous donner de budget de la com en disant « c'est impossible, parce que tout est com à l'UMP ». C'était la phrase « tout est com ». Aujourd'hui, c'est un petit peu changé, puisque la crise est passée par là. Entre-temps, il y a quelques communicants du coup, qui ont dû partir parce que trop tapageurs à l'Élysée. C'est notamment le cas de Thierry Sausset, qui avait en charge des grandes campagnes de pub sur les mesures du gouvernement très voyantes et très coûteuses, qui est parti. Pierre Charron, qui a dû partir également, qui était l'homme un petit peu des affaires sensibles, chargé des affaires sensibles, de déminer un certain nombre de choses. Il reste néanmoins autour de l'UMP une petite cellule où chacun a un rôle. Donc il y a Franck Louvrier qui est en charge de la presse, de s'occuper de la relation avec les journalistes. Il y a Jean-Michel Goudard, l'un des créateurs d'Euro 1CG, le G d'Euro 1CG qui est un petit peu le vieux sage. Et il y a un petit peu ceux qui s'occupent des sondages. Donc il y a Pierre Giacometti qui s'occupe du suivi des sondages et Patrick Buisson qui s'occupe aussi du suivi des sondages, mais qui lui est aussi chargé de mettre la barre à droite toute. Et cette cellule-là, on essaie de plus en plus de la cacher parce qu'il y a eu la crise et parce qu'entre-temps, du coup, la com-tapageuse a plus mauvaise presse.
Après un quinquennat de Nicolas Sarkozy qui était beaucoup tourné autour de la communication et d'une saturation, il y a eu un ras-le-bol. Et aujourd'hui, les communicants ont tendance à se protéger, à ne pas parler. Et puis pendant une campagne, surtout une campagne un peu difficile, on parle moins, on se met moins en avant. Et on va dire, c'est toujours une façon pour les communicants de s'en sortir en disant, nous, on est des hommes et des femmes de l'ombre et donc on ne veut pas se mettre en avant. Mais en même temps, quand ils en ont besoin, ils aiment bien se mettre en avant aussi. Donc c'est une relation un peu schizophrénique avec les médias, quoi.
Pierre Nicolas, comment vas-tu ?
Pour mettre en scène la rentrée d'un président reposé et à nouveau plein d'énergie après son malaise, les communicants de l'Élysée ont trouvé un symbole fort, une usine flambant neuve, mais dans un secteur en difficulté.
RTBF.
Ici, on fabrique des sièges et des pare-chocs de voitures.
5 septembre 2009.
Scénario bien rodé. Le président passe en souriant devant des ouvriers au travail, serre des mains, échange quelques mots rapides avec des apprentis.
Combien de temps en école ? Combien de temps ? Allez, 6 ans.
À l'extérieur, tout est mis en œuvre pour qu'aucun manifestant ne vienne troubler la visite. Rien de tel qu'une usine en pleine campagne normande avec un accès unique, facile à contrôler. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'altercation imprévue, comme au salon de l'agriculture.
Salut ! Casse-toi là !
Il faut donc soigner le casting. On fait venir des employés d'autres sites, un peu comme des figurants, mais ils sont, paraît-il, tous volontaires. Ultime réglage avant le discours du président devant le personnel. Ceux-ci resteront derrière lui pendant qu'il parlera. Mais en y regardant bien, il y a quelque chose d'étrange.
On m'a dit que vous avez été choisi sur un critère de taille. Est-ce que c'est vrai ?
Oui. Oui.
Pour ne pas être plus grand que le président ?
Voilà.
Aujourd'hui.
Ça ne devait pas se savoir, c'est raté. Mais pour l'image, c'est réussi. À part les ministres, aucune tête ne dépasse. Et le président peut entonner son couplet favori.
C'est une rendez-vous.
Je suis payé pour agir, pas pour commenter. Faut se battre.
Pas de paysans en colère, pas d'ouvriers insultants. Dans ses déplacements, Nicolas Sarkozy ne veut désormais voir qu'une seule tête. Ça fait de belles images, mais pas sûr que les Français soient dupes.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Il faut que je vous dise quelque chose. Lorsque je suis rentré dans la salle et que j'ai vu qu'elle était pleine à craquer, que vous étiez innombrables, avec une idée en tête, faire gagner Nicolas Sarkozy, vous n'imaginez pas combien j'ai été heureux et ému. Les Français attendent de leurs dirigeants qu'ils soient audacieux, qu'ils soient courageux, qu'ils disent la vérité, qu'ils prennent les décisions nécessaires. Vous l'avez compris, le seul qui peut incarner ce courage, c'est Nicolas Sarkozy. Je le dis à nouveau, un objectif aux côtés de Nicolas Sarkozy, préparer et protéger l'avenir des enfants de France. Je vous embrasse. Merci beaucoup.
Voilà.
Monsieur oui. Copé, voilà, ça va?
Très bien. Pouvoir s'adresser à un nombre aussi important de Françaises et de Français qui s'engagent dans cette campagne, qui aiment la France, qui ont envie de servir les idées les plus belles qui soient, les plus ambitieuses qui soient, bah, c'est un moment très émouvant.
Combien de temps il faut pour préparer un tel discours?
Vous savez, c'est tous les jours en ce moment qu'on est dans les meetings et les réunions, donc on est au clair sur ce qu'on veut dire.
Alors justement, parce que moi je m'intéresse à la communication politique.
Ah oui.
Et vous par exemple, parce que chaque homme politique a un peu son coach, donc...
Non, j'ai pas de coach, j'ai une équipe de gens qui travaillent avec moi, qui sont très compétents, mais en réalité, trouver les mots, choisir les formules et proposer des idées fortes, c'est d'abord la responsabilité de celui qui les prononce.
Est-ce que vous, par exemple, je crois savoir que c'est Bastien Millau qui s'occupe de cet entraînement?
Tu m'as beaucoup aidé, ça c'est vrai, avec d'autres. Hein, toute mon équipe à réfléchir aux idées qui en réalité peuvent mobiliser, intéresser, interpeller les Français. Ce qui m'importe, c'est plus les idées que les petites phrases.
Et alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce que vous avez dit?
Que c'est un rendez-vous historique, celui que nous vivons aujourd'hui. Je pense que la passion, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Voilà.
Et de vérité, alors la vérité c'est un peu à double tranchant?
Non, la vérité c'est jamais à double tranchant, c'est tout l'intérêt de la vérité justement. C'est la différence avec le double ou le triple langage d'un Hollande par exemple. Donc voilà, nous l'intérêt c'est de pouvoir porter un message de vérité vérifiable, voilà.
Alors, vérité on peut s'imaginer c'est des affaires?
Oh non, mais les médias reparlent des affaires, non.
L'affaire Bettencourt?
Qui concerne Nicolas Sarkozy ou qu'ils essayent de faire concerner Nicolas Sarkozy, qui est l'affaire Bettencourt. Les médias en ce moment, vous savez, je suis pas certain qu'ils aient envie de Nicolas Sarkozy. Alors, donc c'est une manière pour nous de le constater sur un sujet comme celui-là.
On libère la place là.
Comment? Pourquoi vous mettez la main sur le micro? Non, mais pourquoi vous mettez la main sur le micro? On vient juste de me faire couper mon micro en me mettant la main sur mon micro et c'était le service de presse qui a écourté en fait un peu l'interview avec Jean-François Copé quand on commençait à parler des affaires. Donc j'ai dû couper l'enregistrement. Alors on va se remettre donc dans le carré des journalistes. On est parqué derrière, on ne peut pas faire d'interview.
Là-bas, oui. Sur le côté. Voilà. Yes. C'est pour quand? C'est quelle période?
Pour la semaine prochaine.
Et vous citerez le livre?
Là, on fait du temps, puis vous arrangerez après.
Après, je monte, donc c'est pas en direct.
Je cherche pas à condenser au maximum.
Non.
Ah. Si.
la rencontre avec Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on nous le disait hier, la communication mène à tout à condition d'en sortir, par exemple. elle peut mener à la politique. Vous le savez, bien sûr, Jean-Pierre Raffarin a été longtemps dans la com et il est passé à la politique ensuite avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui, il est en première du quotidien Le Monde avec sa photo et au-dessus avec un texte l'embarras à peine voilé de la droite modérée. On comprend le sens de ce titre, mais alors on se demande si c'est de la com. Est-ce que c'est vraiment M. Raffarin, la droite modérée, qui exprime cet embarras par rapport à la campagne telle que la mène le président de la République? C'est sans doute sa conviction. Pourquoi ? En tous les cas, il y a indéniablement un doute que nous pouvons avoir, ou une envie que nous pouvons avoir de décrypter la com qui peut être derrière cette déclaration et ce positionnement. Alors, les propos de M. Raffarin sur com et politique.
Toc, 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 on y va. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter.
Jean-Pierre Raffarin,
comment on peut vous présenter aujourd'hui ?
Comme le vice-président du Sénat, vice-président de l'UMP, quelqu'un pour qui la communication est une valeur, parce que c'est la prise en compte de l'autre, quelqu'un qui a fait beaucoup de communication dans sa vie, sans en faire trop. Et au fond, la communication, c'est essayer de répondre à les questions que peut se poser l'autre. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux mots, que les mots ne soient pas des barrières qui éloignent, mais plutôt des passerelles qui rapprochent. Et puis peut-être aussi de l'émotion, de la poésie.
Et alors justement, tout ça, ça s'apprend.
C'est une maîtrise du discours, une sorte de voyage dans la parole et qui vous permet d'être à la fois politiquement stratégique, parce que ma parole n'est pas innocente, j'ai des choses à dire et la personne qui m'écoute doit être convaincue de ma sincérité.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes finalement le premier communicant à avoir occupé le poste de Premier ministre ?
Oui, j'ai commencé une carrière dans le privé, j'ai exercé alternativement des responsabilités dans le privé et dans le public. J'ai fait du marketing chez Jacques Vabre, puis je suis allé faire de la communication dans un cabinet ministériel, puis je suis retourné ensuite dans le privé où j'ai dirigé Bernard Krief Communication, qui était un grand cabinet de consultants de ressources humaines et de communication. Puis je suis revenu en politique, donc j'ai fait alternativement le métier public et le métier privé.
Ce sont mes meilleurs grains, seigneur.
Non, pour Jacques Vabre, ces grains n'ont pas eu assez de soleil.
Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte.
Mais vous êtes le premier à me dire ça, seigneur.
Voilà, des grains qui ont eu beaucoup de soleil, c'est cela qu'il faut pour Jacques Vabre.
Rien de la montagne, seigneur.
J'en étais sûr.
Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie. La vie, c'est ton visage. Ta vie, elle est importante pour toi, elle est importante pour tes proches, pour tes amis.
La positive attitude, c'est une question presque de philosophie. On n'a pas le droit d'être désespéré.
Voilà, j'apprends que Laurie est un jeune philosophe.
Et pourquoi pas ?
Voilà un bon café.
C'est du nectar, mon petit. C'est le meilleur de Jacques Vabre.
Jacques Vabre, soyez sûr de faire plaisir.
Win the yes. Need the no to win. Again the no.
Jean-Pierre Raffarin, vous êtes nommé en 2002 par Jacques Chirac Premier ministre. Vous instituez, vous officialisez le média training pour les hommes politiques du gouvernement.
Il est clair que nous avons voulu mettre en place une communication professionnelle parce que la communication moderne se compte en secondes. Alors que les messages sont de plus en plus complexes, l'expression doit être de plus en plus simple. Maurice Lévy a été, avec l'agence Publicis, le conseil de Matignon pour la réforme des retraites.
Quel est le soutien que peut apporter Publicis pour un Premier ministre ?
C'est surtout de pouvoir comment est-ce qu'on va informer la population. Par exemple, il s'agissait des gens qui ont travaillé à partir de 14 ans, d'autres qui ont travaillé à partir de 16 ans. Comment est-ce qu'on parle à tel public ? Comment on parle à tel autre public ? Donc, il y a tout un travail d'accompagnement de la décision. Et donc, c'est l'agence Publicis qui a conçu à la fois la simplification des messages en fonction des cibles et qui a organisé le système de communication pour que les Français soient au courant de leurs droits.
Est-ce que c'est pour faire attention aussi de ne pas avoir une opinion qui se braque tout de suite lorsqu'on s'engage dans une réforme ?
Bien sûr que le soutien est important. Donc il va de soi que l'information et la communication font partie de l'accompagnement de la réforme pour la rendre progressivement accessible à la population.
Quand vous savez qu'une partie de l'opinion est contre vous, comment essayer de faire en sorte de rendre acceptable la réforme que vous menez ?
Là, en l'occurrence, la communication d'acceptabilité était difficile puisque la communication syndicale est dominante. Vous aviez des manifestations toutes les semaines, donc la parole aux adversaires est plus importante que la vôtre. Et donc, quand vous allez faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, quand la réforme sera prête, vous l'expliquerez aux Français et vous essayez de gagner l'opinion. Et je pense que cette réforme de 2003 a été la première dans notre histoire d'une grande réforme sociale qui se faisait un peu contre l'opinion de départ. Et donc, puisqu'en 1995, on avait été obligé de renoncer. Et là, on a résisté. Et depuis, d'ailleurs, on a pu faire des réformes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la communication aidant, la réforme, elle est contestée avant et finalement, elle est acceptée après. Et aujourd'hui, on voit que dans la campagne présidentielle, au total, la réforme des retraites est une réforme qui est acceptée. Et la communication fait partie de cette acceptabilité des réformes.
Pour ceux qui s'en inquiètent, ceux qui travaillent dur, ceux qui ne s'inquiètent plus pour eux, mais pour les autres, ceux qui cherchent un travail et ceux qui en ont déjà un, ceux qui ont commencé à 16 ans et ceux qui s'y mettront à 27. Pour ceux qui ne veulent pas s'arrêter là ou celles qui veulent juste faire une pause. Et même pour ceux qui ne seront concernés que dans 50 ans. Nous devons trouver des solutions pour sauver nos retraites et réussir une réforme juste.
Voilà, s'adresser à l'émotion, à la douceur, au cœur, avec cette jolie voix de femme sur cette musique agreste, légère, botticellienne, pourrait-on dire. Voilà, 95-2010, ça fait 15 ans, pour privatiser les retraites. C'est donc un long, long travail de communication. Ne dites surtout pas propagande. Dites pédagogie, dites gagner l'opinion, dites des choses comme ça, par la douceur, peu à peu. Ne dites surtout pas propagande, c'est le mot interdit. Et pourtant, Édouard Barnès, dont on parlait tout à l'heure, est l'auteur d'un ouvrage remarquable, de lucidité, de cynisme aussi, et qui en dit très très long sur l'histoire de ces manipulations, dont il est l'un des promoteurs, on dit l'un des inventeurs pour le XXe siècle, et que je vous conseille à nouveau. Un service qui a beaucoup d'importance au niveau de la communication, la communication politique, c'est le SIG, le service d'information du gouvernement, qui existe depuis 1976, un organe gouvernemental placé sous l'autorité du Premier ministre et qui est chargé de la réalisation des campagnes de communication du gouvernement dans tous les domaines, sécurité routière, crise sanitaire, campagne de vaccination, etc. Mais le SIG a connu différents infléchissements au cours du récent quinquennat, dont nos deux auteurs, Aurore Gorius et Michaël Moreau, nous disaient à quel point ce quinquennat aura été le quinquennat de la com, même si à un certain moment on s'est aperçu que trop de com tue la com et que la com sera peut-être bien rendu responsable d'un échec, mais qui n'est pas du tout encore certain, bien évidemment. Michaël Moreau, Aurore Gorius.
Le SIG, le service d'information du gouvernement, est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi
Comment ça se passe ?
Alors, le service d'information du gouvernement, c'est ce service qui s'occupe de la communication des ministres et du gouvernement, qui est censé en fait faire le service après-vente aussi des différentes mesures mises en place par le gouvernement. Ça, c'est la version telle que l'a faite notamment Nicolas Sarkozy, puisque lorsqu'il est arrivé, il a mis à sa tête en 2008 Thierry Sausset, qui est parti depuis, qui a fait exploser les budgets, et c'était vraiment devenu quasi un outil de propagande, alors que jusqu'ici, officiellement, le SIG s'occupait plus des grandes campagnes type pour la sécurité routière, tandis que là, il y a eu véritablement du service après-vente sur les mesures pour le pouvoir d'achat, pour un certain nombre de mesures du gouvernement. Et Thierry Sausset, du coup, que l'on a rencontré, nous disait même qu'il avait obtenu les moyens, dès qu'une mesure importante était mise en place, de pouvoir déclencher tout de suite une grosse opération de com' avec des affiches, avec, on a vu sur les retraites, des petits fascicules, y compris dans des journaux télé comme TV Magazine pour expliquer la réforme des retraites à tous les Français. C'est ce service-là qui s'occupe de ça.
Et ça représentait, à l'époque où on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, je crois le budget était aux alentours de...
On dit que c'était passé notamment de 6 à 21 millions d'euros. Parfois, ça a été monté jusqu'à 28 certaines années. Donc c'était véritablement une énorme explosion, même si officiellement, Thierry Sausset dit que ça a été des redéploiements, que c'était financé par des redéploiements.
Le SIG aussi a eu une nouvelle compétence au début des années 2000, celui d'organiser les médias training des ministres. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a instauré ça. Auparavant, tout ce qui était médias training était financé sur les fonds secrets. Là, ça a été officialisé, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'offres en bonne et due forme pour passer un contrat avec une boîte de pub, notamment avec Jean-Claude Narcy, qui a entraîné beaucoup de ministres et qui était aussi à l'époque le directeur de l'information de TF1. Donc évidemment, là, il y a eu aussi un mélange de genres, donc c'est pas anodin non plus. C'est vrai que la nomination des patrons des grandes entreprises publiques, c'est vraiment le moment où s'incarne vraiment ce mélange des genres. Et notamment dans l'énergie, les secteurs vraiment stratégiques de l'économie, où le politique est très présent. Et comme ce sont aussi d'anciennes entreprises publiques ou qu'ils le sont encore, c'est le politique qui nomme les patrons. Et donc il y a des campagnes qui sont menées pour la nomination de ces gens-là. On a vu par exemple des grands plans médias pour la nomination du PDG de GDF au début des années 2000. Ça a été vraiment une bataille, une foire d'empoigne. Et c'est à ce moment-là aussi qu'interviennent les communications pour faire la campagne de promotion ou la défense de certains patrons. Par exemple, Image 7 a défendu Anne Lauvergeon pendant des années. Anne Lauvergeon et Anne Méo sont amies. Elle l'a défendue entre guillemets. Et on accuse Image 7, Anne Méo, c'est ce qu'avait longtemps pensé Nicolas Sarkozy, d'avoir laissé fuiter des informations sur les salaires d'Henri Proglio quand il était à la tête d'EDF pour essayer de faire une campagne de dénigrement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Henri Proglio à la tête d'EDF voulait entre guillemets la tête d'Anne Lauvergeon à Areva et voulait prendre la direction de la filière nucléaire française. Donc il y avait une bataille comme ça de patrons, et derrière il y a des communicants qui organisent des campagnes médiatiques pour essayer de défendre leurs clients, puisque derrière évidemment quand on conseille un grand patron à la tête d'une entreprise, on récupère des contrats pubs, etc. Et là évidemment le réseau politique est très très important et joue beaucoup pour aider à soutenir le patron qu'on défend.
Tout l'été, les deux hommes ont alimenté le feuilleton EDF. Au premier plan, Pierre Gadonnex, qui devrait être officiellement nommé la semaine prochaine. À ses côtés, François Rousseli. François Rousseli, dont on a longtemps cru qu'il se succéderait à lui-même.
TF1, 8 septembre 2004.
N'était-il pas il y a quelques jours encore en Chine pour préparer notamment le prochain voyage de Jacques Chirac? Il avait donc les faveurs de l'Élysée, celles surtout de Nicolas Sarkozy, mais pas celles de Jean-Pierre Raffarin. Fort du soutien de Nicolas Sarkozy tout l'été par voie de presse, François Rousseli a donc orchestré sa propre promotion, provoquant l'irritation à Matignon, où le Premier ministre, dès la rentrée, a fait d'EDF et du départ de son président une question de principe et d'autorité politique. Avec Pierre Gadonnex, c'est désormais une nouvelle équipe qui devra mener à bien les défis d'EDF. Changement de statut, développement à l'international, réacteur nucléaire de la troisième génération. Il était temps. Depuis le 11 juillet dernier, date officielle de la fin du mandat de François Rousseli, EDF ne vivait plus qu'au rythme des rumeurs et des incertitudes.
Et c'est là qu'on peut mesurer l'exorbitant pouvoir des gourous de la com, ces faiseurs de rois, eux qui font la com des personnalités politiques et qui font aussi la com des personnages importants, des figures de l'économie française, des grands leaders de l'économie française, de la finance. Et voilà, il y a un moment où ils peuvent intervenir pour les uns, pour les autres, avec toute une puissance évidemment extraordinaire de manipulation, le pouvoir des gourous de la com. Un connaisseur que nous retrouvons, Jean-Pierre Raffarin.
Est-ce que le rôle des communicants est devenu trop important aujourd'hui ? Quelquefois dans les nominations, par exemple, si on peut revenir sur cet exemple qui, moi, m'avait intéressé, c'est lorsqu'il y avait la nomination du patron d'EDF. Il y avait d'un côté une grande société Euro-RSCG qui défendait la candidature du patron sortant de chez EDF, François Rousseli. Et de l'autre côté, il y avait Anne Méo de Image7, que vous connaissez bien, qui est une autre grande société qui défendait Pierre Gadonnex. Alors, et qui vous a d'ailleurs conseillé à ce moment-là, Anne Méo, je crois savoir, dans le choix du PDG, enfin du nouveau directeur d'EDF.
Je dément formellement qu'en 2004, j'ai été conseillé par qui que ce soit pour choisir le président d'EDF. Monsieur Gadonnex, que j'ai choisi, est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, et ce fut ma décision. Il est vrai que je l'ai imposé à Jacques Chirac à ce moment-là, et ce n'est pas un consultant qui m'a permis d'affronter, en l'occurrence, par exemple, le président de la République. C'est quelque chose qui m'était personnel.
Et Anne Méo, vous la connaissez bien en revanche ?
Non.
Ah bon ?
Anne Méo est une amie que je connais bien. J'apprécie ce talent.
Vous aviez travaillé avec elle lorsque vous étiez Premier ministre ?
Je crois pas que ça soit tout à fait le sujet. Enfin, on peut discuter de ces questions-là. Anne Méo est quelqu'un qui était engagé dans le même parti politique que moi. Je n'ai pas eu de travail sur ces questions-là avec Anne Méo.
Anne Méo, parce qu'elle est beaucoup moins connue finalement du grand public que Jacques Séguéla. Et Anne Méo, pour la présenter en deux mots, comment vous la présenteriez-vous ? Peut-être vous feriez une meilleure présentation que la mienne de Anne Méo ?
Moi, je peux vous parler de la personne. C'est quelqu'un que je connais bien sur le plan de son parcours politique. Mais en ce qui concerne la présentation de son entreprise, le professionnalisme exigerait que ce soit elle-même ou vous-même qui présentiez son entreprise. Ce n'est pas moi qui la connais mal qui pourrait le faire.
Qui la connaît bien, vous voulez dire ? Non ? Pardon.
Quoi ?
Qu'est-ce qui vous dérange ? Hein ? Pourquoi ça dérange de parler d'Anne Méo ? Expliquez-moi votre embarras.
Non, j'ai pas d'embarras.
Parce que moi, une machette, on m'a expliqué aussi, par exemple, qu'ils avaient travaillé avec vous lorsque vous étiez à la tête du conseil régional de Poitou-Charentes.
Ben ça, c'est possible que c'est possible qu'il y ait eu des. Non, mais je ne nie pas ça. J'ai travaillé avec beaucoup d'agences dans toute ma vie.
Comment ?
On a fini ?
Non, pas tout à fait.
Non, je pars. J'ai un avion là. J'ai un avion. Merci.
Bon, donc je pourrais pas une dernière. Pendant que vous préparez vos affaires.
Non, merci.
Non ?
Gentil. Bon courage à vous.
Là, je suis en train d'arriver au groupe Euro RSCG. Ce matin, il est 10h et j'ai rendez-vous. On est à côté de la Défense. Et là, j'ai rendez-vous avec Nourdine Cherkaoui. Nourdine Cherkaoui, c'est un des premiers à avoir institué le média training, à avoir en tout cas fait du média training un outil de communication, c'est-à-dire le média training, c'est pour s'entraîner, comme le nom l'indique en anglais, c'est pour faire en sorte qu'on puisse s'entraîner à des exercices de médias. Et lui donc organise ça au sein du groupe Euro-SCG, je dois aller le voir ce matin. Donc il devait me trouver un cobaye, c'est-à-dire un client qui accepte que j'assiste à cet exercice. Bon, évidemment, ça n'a pas été possible, je dis évidemment, parce qu'à chaque fois, c'est pas très possible, c'est-à-dire que Euro-RSCG m'ouvre ses portes, ce qui est plutôt un bel effort, mais c'est plus par souci de, j'allais dire, de semblant de transparence que de transparence. Les discours sont quand même très maîtrisés et les clients, je ne les vois jamais. Mais bon, ça donne en tout cas l'apparence d'être transparent. Bonjour.
Nous allons nous installer ici.
D'accord, comme si on était en séance de média training. Donc, pour décrire cette salle, on a un pupitre.
Très fonctionnel, très pratique, puisque nous pouvons le décorer aux couleurs du client.
La question que je me posais, c'est est-ce que, par exemple, vous aviez fait du média training pour le principal actionnaire, qui est Vincent Bolloré, du groupe Havas et du groupe Euro-RSCG ?
Je peux vous parler des profils, je peux vous donner des informations sur des problématiques, mais je ne donne jamais de nom.
On ne peut pas savoir si, par exemple, vous avez médiatraîné Manuel Valls.
Que vous me posiez 10 fois la question ou pas, ça ne changerait rien. Ici, il y a une confidentialité totale. Et cette confidentialité, ça va vous surprendre, elle est aussi avec nos prestataires. C'est-à-dire que vous avez certains de vos confrères qui viennent travailler avec nous. Dans votre jargon, vous utilisez l'expression « ménage ». Et donc, il n'y a jamais eu de fuite, directe ou indirecte. C'est-à-dire qu'il peut donner l'information à un de ses confrères aussi. Hein. Eh bien, on ne travaille plus ensemble. Donc, exit la pension alimentaire ou le voyage à l'étranger.
Ce cercle-là, qui est fait de journalistes, de chefs d'entreprise, hommes politiques, est-ce que, quand on sait aussi que Euro-RSCG, c'est-à-dire vous venez de formation politique, d'autres partent d'Euro-RSCG vers les ministères, tout se va-et-vient ?
Inverse, oui. Mais attendez, le monde n'est pas cloisonné. Il ne faut pas rester sur des schémas qui sont du siècle dernier.
Oui. Petite Pascal Pascariello, il faut être de son temps. La lampe à huile, c'est terminé. Nourdine Cherkaoui nous reçoit et nous présente le média training, qui est un domaine bien connu, comment nos hommes politiques eh bien, s'entraînent à placer leur voix, apprennent le langage du corps, apprennent... voilà, et tous, je suis bien curieux de savoir si il y en a qui échappent, qui refusent ce genre de pratiques et d'entraînement. Il y a aussi nos confrères journalistes qui font des ménages parce qu'ils ont des pensions alimentaires à payer ou bien des voyages à l'étranger à s'offrir avec un petit peu d'entraînement. C'est une vieille histoire dont nous parlent les auteurs, les gourous de la com, Aurore et Michael.
On sait notamment que ces médias training à destination, que ce soit des politiques ou des grands patrons, sont assurés par des journalistes dans ce qu'on appelle chez les journalistes des ménages.
Alors il y a différentes formes de ménages, mais le ménage le plus connu, c'est le média training. Ça se passe de la façon suivante, des entreprises de communication, comme Euro-RSCG par exemple, qui est une branche dédiée à ça, recrutent des journalistes pour entraîner les politiques qui ont besoin de préparer un passage télévisé, qui ont besoin de préparer une intervention médiatique quelle qu'elle soit. Donc les médias training sont répandus, et effectivement ça met en porte-à-faux les journalistes qui sont dans des rédactions et qui en même temps aussi entraîne des politiques. On se souvient par exemple de Jean-Claude Narcy qui avait préparé le ministre Hervé Guémard avant son intervention télévisée au moment du scandale de son appartement. Il était accusé d'occuper un appartement grand et cher. Ça a été un scandale médiatique et avant son interview dans le journal de Claire Chazal sur TF1, il a été entraîné par Jean-Claude Narcy qui était à l'époque directeur en charge de l'information à TF1. La relation qui s'instaure avec la personne qu'on entraîne et qu'on coach, c'est vraiment une relation de proximité. Et c'est vrai que du coup, il y a une proximité assez forte qui s'installe avec le pouvoir. Et c'est là où ça peut poser problème ensuite dans l'exercice du métier de journaliste.
Monsieur, vous le savez sans doute, Microsoft... Dans le métier, quand un journaliste utilise sa renommée au service d'un produit ou d'une entreprise contre rémunération, on appelle ça faire un ménage. Mais les risques de conflit d'intérêts sont évidents. Les ménages sont donc fortement réprouvés par le code de déontologie du journalisme. Il suffit pourtant de décrocher son téléphone pour découvrir que beaucoup font des ménages et que, comme dans les supermarchés, chaque produit a son prix.
Les nouveaux chiens de garde, un film de Gilles Balbastre.
Imaginons par exemple un monsieur Lambert.
Bonjour. Monsieur Lambert, l'appareil de la
directeur d'une société, disons, voilà, donc, KTP Finance.
C'est la première fois que je fais appel à vos services. J'aurais
et si ce monsieur Lambert prenait contact avec une agence spécialisée pour s'offrir les services d'un journaliste connu.
Et j'aurais bien aimé un journaliste pour faire une...
Voyons un peu comment se passeraient les choses.
Voilà, donc je voudrais quelque chose de bien. On a un petit budget quand même. Je voudrais un bon rapport qualité-prix, quoi.
Vous avez quoi comme budget ?
On aimerait que ça reste autour de 15 000 euros.
Ah oui, c'est un bon budget.
C'est un bon budget, ça ?
Ah bah oui. Enfin, si vous voulez, on a énormément de journalistes qui sont en travail, donc on a tous les prix.
Ah bon ?
Et après, c'est plutôt à vous de me dire un peu quel genre de journaliste vous voulez.
Baf. Pujadas ou bien Guillaume Durand, tout ça, c'est possible ?
Alors, Pujadas, non. En gros, faut oublier les gens qui présentent les journaux.
Ah bon ?
Parce qu'ils sont beaucoup trop exposés et donc ils ne le font pas. Par contre, Guillaume Durand...
Pourquoi ils ne le font pas ? Exposés à quoi ?
Parce que ça va être payé pour aller faire les conventions, leur limite de prix que vous voulez et d'être payé par des entreprises. C'est quelque chose, ils vont pas signer sous tous les toits.
Ah bon ?
Non, c'est très hypocrite. Hein. C'est mal vu d'autres journalistes alors que tout... on va dire la moitié des journalistes le font.
dès qu'un gouvernement plie bagage, du coup on va regarder dans les cabinets ministériels quels sont les conseillers qu'on pourrait reprendre, qu'on pourrait embaucher et qui pourraient nous apporter un peu de carnet d'adresses pour favoriser le lobbying pour nos clients.
Et à l'inverse, les agences, est-ce que les agences de communication essayent de placer des gens qui viennent des agences ?
Elles essaient de placer dans les cabinets ministériels un certain nombre de leurs agents. Elles favorisent toujours, c'est-à-dire que Stéphane Fuchs nous a dit, à chaque fois que quelqu'un vient nous dire « je pars dans un cabinet ministériel », il l'a favorisé en lui disant « peut-être qu'après tu pourras revenir ». Donc c'est du donnant-donnant. Et on a même vu donc un consultant d'Aurore SCG devenir ministre. C'est le cas de Benoît Apparu au logement.
Quel est le but en fait de la part de ces agences de communication ?
De pouvoir entrer au cœur du pouvoir pour pouvoir ensuite être écouté. C'est-à-dire que quand on a besoin de joindre un conseiller ministériel pour pouvoir faire avancer un dossier pour un client privé, c'est toujours plus facile d'avoir un certain nombre de relais là-bas.
C'est ce que vous appelez la toile d'araignée en fait. Aurore SCG tisse sa toile.
Oui, exactement. C'est-à-dire que Aurore SCG a des pions un petit peu partout. Anne Méo aussi, on en a pas mal et on a eu pas mal notamment lors de l'apogée, c'était un petit peu sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, dont elle est très proche, où à l'époque il y avait beaucoup beaucoup de communicants d'Image 7 qui avaient accès à Matignon ou auprès des ministres de Jean-Pierre Raffarin.
Les ménages, les conflits d'intérêts, les gourous de la com. La com, un monstre doux. Reportage Pascal Pascariello et Gaylor Van Vimersch. Merci Aurore Gorius et Michael Moreau. Je rappelle encore une fois leur bouquin « Les gourous de la com » qui est paru en 2011 à La Découverte. Et puis vous pouvez réécouter une émission du 26 novembre 2007 sur labas.org avec Normand Baillargeon autour du livre « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie » d'Edouard Barnès. Sur donc labas.org. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Labas, j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur labas.org. Et puis on peut se retrouver sur la page Facebook de l'émission. Yann Bouillot et Gilles Gaillard étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de Labas, j'y suis au 01 56 40 37 37.